Bonjour Tiffaine, et en ce jour de Saint-Valentin, nous terminons notre semaine consacrée à l'amour dans quelques grandes œuvres littéraires.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Combien d'écrivains et de dramaturges le sont devenus par amour? Combien se sont mis à leur table de travail pour chanter l'être aimé ou la déchirure de sa perte? Bien souvent transfiguré, sublimé, transposé, le sentiment amoureux est l'une des sources de la littérature, bien qu'on le dévalorise souvent quand il se présente sous la forme d'une histoire d'amour qui n'est pas ponctuée de tragique. Une histoire des romans d'amour est néanmoins possible et Pierre Lepape l'a faite pour nous lundi dernier au cours d'une émission à retrouver en podcast. Et puis mardi, nous sommes remontés aux sources du genre avec une analyse de Tristan et Iseut par la voix de Christiane Marquelonisia qui a édité ce grand texte dans la bibliothèque de la Pléiade. Enfin hier, de l'amour, nous avons glissé à la passion charnelle avec l'amant de Lady Chatterley, célèbre roman de D.H. Lawrence dont nous a parlé l'écrivaine Catherine Millet. Et aujourd'hui, I fall in love too easily. I fall in love too fast. Aujourd'hui, pour parler de la manière dont Shakespeare et Stendhal ont envisagé l'amour dans Le songe d'une nuit d'été pour l'un et La chartreuse de Parme pour l'autre, nous sommes en compagnie de Frédéric Saillère et d'Emmanuel Caquet. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Emmanuel Caquet, vous êtes agrégé de lettres classiques et vous enseignez en classe préparatoire scientifique et littéraire au lycée La Canale de Sceaux, tout comme vous, Frédéric Saillère, qui êtes professeur en classe préparatoire scientifique et littéraire, agrégé de lettres modernes, docteur en littérature comparée, mais également psychanalyste. Et ensemble, avec aussi Muriel Van Vliet, vous avez édité au PUF un ouvrage intitulé « L'amour, Platon, Shakespeare, Stendhal », plus particulièrement destiné donc aux prépa scientifiques et à leur concours de l'année 2018-2019. Alors j'ai dit, Frédéric Saillère, que vous étiez psychanalyste, et j'aimerais commencer par là avec vous, puisque il n'y a souvent qu'un pas finalement entre la littérature et la psychanalyse. Dans les deux cas, il s'agit de mettre en mots, de raconter. Et j'imagine que vos patients vous parlent beaucoup d'amour. Il y a toujours la question amoureuse au centre de leur questionnement, de leur problématique.
Alors, évidemment, la psychanalyse est une pratique avant tout. Alors, j'ai pas dévoilé des secrets de patients.
Il s'agit pas de donner des noms.
Mais effectivement, la question amoureuse se pose souvent. Elle n'est pas traitée de la même manière quand il s'agit d'une vraie analyse que lorsqu'il s'agit d'une psychothérapie. Moi, je pourrais parler de cas limite, hein, sortir avec un borderline, c'est compliqué, hein, puisqu'il veut justement ruiner la relation pour s'assurer qu'elle persiste malgré tout, hein, pour finalement réactualiser un drame précoce qui n'a jamais vraiment été dépassé. Ou alors, d'une manière plus scandaleuse encore, hein, il y a une personne qui est prise dans le masochisme moral. Là, il faut intervenir. Hein. Si le patient veut souffrir avec son bourreau, peut-être qu'il faut intervenir. Mais la plupart du temps, je laisse l'amour au patient. En revanche, la théorie analytique, hein, peut-être vous donner des renseignements plus précis. Parce que la question de l'amour intervient très tôt, hein, avec Freud, dès 1914, hein, pour introduire le narcissisme. On a cette question de la libido, l'amour de soi, en fait, hein, la libido du moi, et dans laquelle s'introduit la libido d'objet. Et là, il y a toutes sortes de développements à partir de ce moment inaugural sur la question de l'amour qui pourrait me tenir longtemps.
Mais est-ce que vous diriez que votre double activité, d'un côté la littérature, de l'autre côté la psychanalyse, finalement se complète et que, au fond, la connaissance de la littérature, elle permet de mieux entendre la plainte des patients, par exemple?
Alors, je souscris complètement à ce que Freud disait, hein, des poètes qui l'ont devancé. On a souvent dit que c'était une manière de condescendante de reconnaître à la littérature une préséance qu'il allait justement remettre en cause pour montrer que ces poètes qui disaient des choses vraies sur la littérature ne savaient pas comme Socrate qui essaye de faire accoucher la vérité, ne savait pas ce qu'était cette vérité. Bon, en réalité, je pense que Freud était sincèrement admiratif de la préscience amoureuse, notamment hein, des poètes. Alors moi, au quotidien, je trouve des mots plus facilement, peut-être. Hein, j'ai cité de temps à autre Racine à mes patients.
Et hein, vous conseillez des lectures alors de, je sais pas, Shakespeare par exemple, Le Songe d'une nuit d'été à vos patients.
Alors c'est peut-être celle-ci précisément que je ne conseillerais pas à mes patients.
Bah, on verra tout à l'heure.
Oui, parce que Shakespeare finalement défait tous les discours amoureux et vous place dans un trouble qui est délicieux au théâtre, hein, mais peut-être plus inconfortable dans la vie.
Hein. Mmh. Emmanuel Caquet, ce thème de l'amour, c'est donc le thème retenu pour les cours des prépas scientifiques. Est-ce que on l'enseigne différemment, ce thème-là, à des prépas scientifiques par rapport à des prépas littéraires?
Et on l'enseigne nécessairement de manière différente, parce qu'ils ont 2 heures par semaine de littérature et de philosophie. Donc évidemment, l'enseignement est proportionné à ces 2 heures. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intense, mais bon, on ne peut pas toujours aussi bien approfondir qu'on le voudrait. Cela dit, il y a 3 œuvres, donc on peut répartir cela de manière assez harmonieuse dans l'année.
Oui, alors il y a par exemple dans l'introduction de votre livre des références à Descartes. Je ne sais pas si c'est en particulier à destination des scientifiques, l'amour selon Descartes.
Alors, disons que la particularité d'un livre tel qu'il est fait pour les prépas, c'est qu'il peut s'adresser aux prépas, il s'adresse aussi à nos collègues parfois qui veulent faire des mises en perspective. Le but n'était effectivement pas trop de relier, de parler de Descartes, c'était plutôt de toute façon de s'étonner d'un thème qui repose sur 3 œuvres relativement inattendues, sauf Le Banquet.
Ouais.
Le Banquet, tout le monde s'y attendait, encore que, parce que dans cette beuverie qui se termine par la célébration de l'amour de la philosophie, on est quand même assez loin de ce qu'on pourrait attendre d'une peinture de l'amour. Ensuite, on a eu Le Songe d'une nuit d'été. Beaucoup auraient attendu Roméo et Juliette.
Oui, on en parlera sans doute.
Et on a de Stendhal La Chartreuse de Parme, ce qui est un très bon choix, mais on aurait pu avoir autre chose, le Rouge et le Noir, ou pourquoi pas le de l'amour. Mm. Donc c'est assez intéressant.
Comment vous expliquez ce choix?
Je ne me l'explique pas, je ne suis pas dans la commission des choix d'œuvres, mais je trouve que c'est très intéressant. À titre indicatif, je me suis rendu compte que pour ce qui est du Banquet et pour ce qui est du Songe d'une nuit d'été, ce sont des œuvres qui ont inspiré les musiciens. Mmh. Je pense à Bernstein qui a fait un ballet sur Le Banquet, c'est assez intéressant. Je ne parle pas des musiques sur Shakespeare, parce que alors là, pour le coup, Mendelssohn, Britten et d'autres, Purcell bien sûr, se sont intéressés à la chose. Stendhal n'a pas donné grand-chose en matière de musique, je crois. Bon, mais donc. Ce choix des œuvres, hein, par rapport à une thématique musicale est très très intéressante à faire découvrir aux élèves. Voilà. C'est, vous savez, en classe préparatoire, ce n'est pas que la préparation des concours, c'est aussi une manière d'aimer, c'est un amour de la littérature, un amour de la philosophie, on arrive à le faire passer assez bien.
Et puis la culture générale aussi, évidemment. Alors vous montrez dans votre introduction, oui Frédéric Saillant.
Moi j'enseigne dans une petite classe préparatoire, où c'est un peu différent, parce que j'ai des élèves de la Seine-Saint-Denis, dont certains, figurez-vous, en scientifique, ne sont pas locuteurs maternels en français, et qui sont néanmoins des élèves extrêmement appliqués, et qui progressent d'une manière admirable. Et finalement, là, il y a un enjeu beaucoup plus engagé, hein, finalement, de cette matière qui peut être discriminante, qui l'est souvent au concours, hein, non pas discriminatoire, ce serait excessif, mais qui est discriminante entre les meilleurs. Mmh. Donc, je dois finalement rivaliser avec de grands pédagogues pour pouvoir mener ces jeunes gens, parfois d'origine modeste, hein, d'autres qui sont d'origine de classe supérieure, mais parfois d'origine modeste, vers une maîtrise de la culture qui est possible grâce à un programme serré. Hein, si c'était un programme très ouvert, eh bien, je pense que les scientifiques ne pourraient pas, de manière scolaire, hein, atteindre un niveau décent. Et finalement, notre République ne serait pas vraiment une République de l'égalité des chances, hein, puisqu'il faut que tout Français, finalement, appliqué, studieux, puisse accéder à une grande école.
Alors, Alors nous allons donc plonger dans les deux exemples qui seront les plus utiles au préparationnaire. On va commencer par parler de Stendhal et plus particulièrement donc de la Chartreuse de Parme avec vous, Emmanuel Caquet, avant d'en venir évidemment à Shakespeare et à son songe d'une nuit d'été. Alors Stendhal, la Chartreuse de Parme, livre écrit, plutôt dicté d'ailleurs, en 52 jours à Paris, rue Caumartin, entre le 4 novembre et le 25 décembre 1838, c'est peut-être une légende. Enfin.
C'est peut-être une légende. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il a dû terminer son livre très brutalement, parce que son imprimeur le rappelait à l'ordre, ce qui explique que la fin soit prestissimo, alors qu'on a des adagios très longs.
Voilà. Vous filez la métaphore musicale.
Je file la métaphore musicale, mais ce n'est pas de moi, c'est Julien Gracq, qui s'amuse, en lisant, en écrivant, à en effet faire un parallèle avec la musique et à s'étonner du rythme qui est chez Stendhal très souvent allegro, même parfois prestissimo. Et la particularité de la Chartreuse, c'est évidemment, avec Fabrice, des moments d'extase, des moments où tout d'un coup le rythme s'alanguit, et devient presque immobile. Et là, très musicalement, ce sont des moments presque brucknériens où la contemplation prend la place de l'action. Et c'est vraiment très particulier chez Stendhal.
Mais alors, est-ce réellement un roman sur l'amour ? Vous expliquez que c'est assez progressivement, finalement, qu'on en a fait un roman de l'amour. Qu'est-ce que c'était avant ? Comment considérait-on ce livre-là ?
Alors, il faut reconnaître que pendant très longtemps, quand on regarde un petit peu les utilisations qui sont faites du livre, en termes scolaires, hein, je ne parle pas évidemment, bien sûr, de thèses universitaires très sérieuses, qui vont bien au fond des choses, on mettait au cœur de ce texte certaines réflexions sur la politique.
La guerre est très présente.
La guerre, évidemment, est très présente. Et d'ailleurs, c'est la matrice, hein, du roman. Fabrice ne serait rien sans la guerre qui commence le roman, et qui justifie ensuite qu'il s'essaye à être un héros sans y parvenir. Il y a le comte Mosca, qui est un personnage qui est d'autant plus important que c'est le seul, au bout du compte, qui reste vivant à la fin et qui personnalise, en quelque sorte, qui incarne un rapport à la politique particulièrement marqué, une libido dominante dit très forte. Donc on en a fait vraiment un ouvrage où les réflexions politiques étaient très très nombreuses. Mmh. Hein, c'est maintenant on y voit plutôt un contrepoint.
Mais la guerre, la politique n'est pas sans lien avec la question amoureuse dans la façon dont Stendhal le traite. Hein.
Oui, et puis de toute façon il y a un joli mot qui les relie, c'est la conquête.
Donc Stendhal, l'amour pour Stendhal, c'est l'amour sabre clair, c'est l'amour par la conquête.
Disons que Fabrice s'essaye au départ à être dans le domaine de l'amour ce qu'il n'a pas pu être dans le domaine de la guerre. Hein, notre héros a été bien peu héros à Waterloo, donc ensuite il s'essaye à cette espèce d'amour un peu héroïque, les duels. Hein, alors le duel amoureux, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Il fait des conquêtes, des aventures, bon, jusqu'à ce que la rencontre était un petit peu avant, mais disons que la rencontre, le concret de la rencontre avec Clélia modifie complètement ce choix de l'aventure, ce choix de la conquête. Il ne conquiert pas Clélia. Mmh.
C'est sur bien le mode au contraire.
De, bien fait. Au contraire. Mmh. C'est le mode de l'évidence. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être autrement et qui suppose de s'arrêter complètement, de ne plus être terre à terre comme on peut l'être dans la conquête, hein, et de prendre de la hauteur.
Donc c'est un apprentissage de ce que c'est que l'amour, un amour d'abord vraiment de jeunesse, presque un amour adolescent qui est en lien avec justement ce thème de la conquête et de la guerre, pour aller vers un amour qui est plus proche de l'agapé tout simplement.
Oui, une tentation de l'absolu. On peut le voir dans ce roman. Je crois qu'il y a une formule dans le livre qui peut un petit peu résumer les choses. Il part de la cour politique, mais aussi faire la cour. Hein. Il part de la cour pour arriver dans la tour, hein, parce qu'il se réfugie à un certain moment. Il se réfugie dans sa prison, et c'est dans sa prison qu'il est libre.
C'est dans sa prison
qu'il est. Ben, il veut surtout pas être. Il veut surtout pas qu'on l'aide à s'évader. Il préfère y revenir parce que c'est là qu'il rencontre l'amour et pas évidemment dans la cour.
Alors on va écouter un premier extrait de ce roman La Chartreuse de Parme par Georges Clès.
Clélia en ce moment était animée d'une force surnaturelle. Elle était hors d'elle-même. « Je vais sauver mon mari », se disait-elle. Clélia montait rapidement les 6 marches. Elle se précipita contre la porte. Une clé énorme était dans la serrure. Elle eut besoin de toutes ses forces pour la faire tourner. Elle entra vivement dans la chambre, referma la porte en déchirant sa robe et elle la ferma avec un verrou qui se trouvait sous sa main. Elle regarda dans la chambre et vit Fabrice assis devant une fort petite table où était son dîner. Elle se précipita sur la table, la renversa et, saisissant le bras de Fabrice, lui dit « As-tu mangé ?» Ce tutoiement ravit Fabrice. Dans son trouble, Clélia oubliait pour la première fois la retenue féminine et laissait voir son amour. Fabrice allait commencer ce fatal repas. Il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. « Ce dîner était empoisonné, pensa-t-il. Si je lui dis que je n'y ai pas touché, la religion reprend ses droits et Clélia s'enfuit. Si elle me regarde au contraire comme un mourant, j'obtiendrai d'elle qu'elle ne me quitte point. Elle désire trouver un moyen de rompre son exécrable mariage. Le hasard nous le présente, les geôliers vont s'assembler, ils enfonceront la porte et voici un esclandre tel que peut-être le marquis Crescenzi en sera effrayé et le mariage rompu. » Pendant l'instant de silence occupé par ces réflexions, Fabrice sentit que déjà Clélia cherchait à se dégager de ses embrassements. « Je ne sens point encore de douleur, lui dit-il, mais bientôt elles me renverseront à tes pieds. Aide-moi à mourir. »« Oh, mon unique ami, lui dit-elle, je mourrai avec toi. » Elle le serrait dans ses bras comme par un mouvement convulsif. Elle était si belle, à demi-vêtue et dans cet état d'extrême passion, que Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne fut opposée.
You believe in me, I believe in you. How come that you do?
La compagnie des auteurs sur France Culture. Et ce passage un petit peu amusant de la Chartreuse de Parme, on sent que Stendhal s'amuse aussi avec les faux-semblants de l'amour, le mensonge, la dissimulation, bien souvent à l'œuvre quand il s'agit d'être aimé davantage. Que retenez-vous, Emmanuel Caquet, de ce passage?
Beaucoup de choses. D'abord, l'importance des signes. Dans l'amour, ce sont parfois de tout petits signes qui vont dire beaucoup. Des signes qui peuvent être des signes du corps ou d'autres que l'on invente. Et dans La Chartreuse, Stendhal s'ingénie à nous montrer comment ce qui doit se dire de l'amour n'a pas besoin de se dire avec des mots. Et même parfois d'ailleurs, doit se dire au-delà des mots.
Il peut se dire avec la musique aussi.
Peut se dire, voilà.
Vous parlez beaucoup de musique depuis le début de cette émission. Et dans La Chartreuse de Parme, la musique est un langage d'une certaine façon.
La musique est un langage, mais même les oiseaux peuvent être de très bons simulacres pour dire l'amour mieux que ne peuvent les mots. Donc il y a énormément de signes qu'il faut décoder. Ce qui est remarquable entre Clélia et Fabrice, c'est qu'il s'invente un idiolecte, il s'invente un langage que seuls eux peuvent comprendre, qui est leur création et qui fait leur union.
Et qui se traduit comment alors justement? Donc il y a la musique, il y a le silence et ces signes, alors quels sont-ils? Alors,
là vous avez tous ces petits signes du corps ou ces petits signes qui témoignent d'un sentiment qui d'ailleurs sont immédiatement interprétés. On remarquera qu'ils passent leur temps à s'interpréter l'un l'autre, avec parfois d'ailleurs des erreurs d'interprétation, mais bon, ça c'est le langage oblique.
On vient de l'entendre.
Des dissimulations, parce qu'il y a encore, même chez ces deux tenants de l'amour absolu, des restes, si j'ose dire, de la conquête et de la cour. La deuxième chose que j'entends, c'est tout de même la présence de la mort. Alors, puisque dans la semaine, on a rappelé l'importance de Tristan et Iseut, je voudrais qu'on passe un petit moment en compagnie de Denis de Rougemont.
Bien sûr.
Parce que, évidemment, lorsqu'il analyse l'amour en Occident, il ne manque pas de remarquer qu'il y a deux grands modèles. Il y a Tristan et Iseut, et puis il y a Don Juan. Bon, l'un s'accomplit dans la mort, est la mort consentie au bout du compte. L'autre s'accomplit au bout du... L'autre, qui est un amour de consommation, qui n'est pas un amour a priori absolu, trouve sa résolution également dans l'incroyable mort qu'il a, qui consiste à évidemment mourir du fait d'une statue. Bon, la mort est présente dans les deux cas. Là, on l'a beaucoup entendu. Au fond...
Enfin, c'est une fausse mort. Hein.
C'est une fausse mort. Pas une petite mort, mais en tout cas, tout de même, malgré l'apparente comédie, il y a cette idée, qui est d'ailleurs réalisée à la fin de l'ouvrage, qu'ils vont se réunir dans la mort, ou en tout cas dans une mort qui peut être symbolique, ou qui peut être réelle. C'est très curieux chez Fabrice.
Et que nous dit Stendhal à ce sujet-là? Parce que c'est un leitmotiv, Eros et Thanatos. Qu'est-ce qui est spécifique chez Stendhal dans sa manière d'envisager ce couple?
Je ne vais peut-être pas parler du couple, parce que Clélia, de ce point de vue-là, est moins bien servie que Fabrice. La seule chose que l'on peut remarquer chez Fabrice, c'est que son rapport à l'amour est d'abord un rapport de rupture. C'est curieux de penser une union par une rupture, mais il faut qu'il rompe avec le monde, qu'il rompe avec même les personnes qui sont très sincèrement et très profondément attachées à lui. Il faut qu'il se coupe de tout cela. C'est pour ça que la prison est un lieu d'amour. Bon, c'est paradoxal, mais c'est ainsi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de rompre et qui a besoin d'être enfermé, d'une certaine manière. Il se crée d'ailleurs lui-même des situations qui le mettent presque toujours en difficulté. Il choisit toujours l'extrême difficulté, jusqu'à en étouffer en quelque sorte. Il vit la jouissance de l'amour par une certaine forme de contrainte, une contrainte parfois extrême.
On peut rappeler là un tout petit peu l'histoire pour ceux qui n'auraient pas la Chartreuse de Parme en tête. Fabrice Del Dongo se trouve donc enfermé dans une tour d'où il peut voir la volière où se trouve Clélia. Et donc cet amour se joue uniquement par le regard et puis évidemment les sons.
Parce que Clélia est la fille de son geôlier et il est donc très attiré par la prison. Mais cette prison-là laisse la place à d'autres formes de prison. Les choix qu'il opère après sont en quelque sorte à chaque fois des prisons. Il a besoin de se sentir enfermé pour se sentir puissamment libre d'aimer et d'aimer à sa guise. Il invente un amour. Là, l'amour n'est pas à réinventer, il l'invente. Il invente sa méthode d'amour avec une Clélia qui, de fait, est placée elle aussi dans les mêmes circonstances, dans les mêmes contraintes.
Donc là, c'est très psychanalytique encore, parce que Fabrice aime Clélia et la poursuit d'un amour qui est un amour impossible. Et l'amour de Fabrice est donc un amour mystique. Et à ce sujet, vous soulignez que le titre de l'ouvrage, La Chartreuse de Parme, raconte très bien l'oxymore entre le mystique et puis le charnel. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point, Emmanuel?
Alors, je vais peut-être être en porte-à-faux par rapport à tout cela, parce que c'est peut-être un amour mystique, mais c'est un amour concret. Ils ont un enfant. Alors, l'enfant meurt, mais ils ont un enfant. Donc, je ne pense pas qu'ils aient pu l'avoir par une relation strictement mystique. Ce fut une relation charnelle.
Oui. En revanche, plus on avance dans le roman, et plus on va quand même vers le plateau. Platonisme, quand même. Puisque Fabrice finit dans une chartreuse, donc dans un,
oui,
dans un couvent.
Oui, il finit parce que évidemment, la mort a atteint ce qu'il aime. Cela dit, l'idée de mysticisme, ce serait très embêtant de dire cela s'agissant de Stendhal et s'agissant de la chartreuse. Parce que, bon, vous voyez bien dans le roman, il a un métier qui est religieux. Bon, et en même temps, il faute. Hein, il a une relation avec Clélia. Donc il a d'un côté sa vie publique qui est de prédicateur, et puis de l'autre côté une vie privée qui consiste, à aller voir une femme, et en plus une femme mariée. Donc on est assez loin du mysticisme. Il y a un combat, en fait, entre la puissance charnelle du désir et puis cette volonté de faire de cet amour quelque chose de plus grand, de plus élevé, de faire de sa vie une œuvre.
Oui. Là encore, grand thème de l'amour en littérature. Alors Stendhal, Emmanuel Caquet, on le sait, c'est l'inventeur du concept de cristallisation amoureuse. Je vous propose d'entendre le fameux extrait de l'amour où il développe cette idée.
Voici ce qui se passe dans l'âme.
Premièrement, l'admiration. Deuxièmement, on se dit quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. Troisièmement, l'espérance. On étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. La passion est si forte, le plaisir si vif, qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né. Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens et d'aussi près que possible un objet aimable et qui nous aime. Cinquièmement, la première cristallisation commence. On se plaît à orner de mille perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel, que l'on ne connaît pas, et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif.
Compagnie des auteurs sur France Culture, laissez travailler la tête de l'amant pendant 24 heures et voici ce que vous y trouverez, écrit Stendhal. Alors, est-ce qu'il y a une cristallisation amoureuse qui s'opère aussi dans la Chartreuse de Parme entre Fabrice et Clélia? On a l'impression que c'est pas tellement la même catégorie, on ne retrouve pas en tout cas la catégorie qui a été ici énoncée.
Oui, je pense que si on voulait vraiment chercher la cristallisation, il faudrait aller la voir dans Le Rouge et le Noir. Aussi bien d'ailleurs chez Mathilde Lamolle que chez Madame de Rênal. Dans la Chartreuse de Parme, nous avons peut-être autre chose. On a bien entendu, il faut de l'admiration, du désir, puis on arrive à l'amour. Et l'imagination joue un rôle très important dans la cristallisation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la Chartreuse de Parme. Fabrice rencontre Clélia alors qu'elle est très jeune, elle a 12 ans, et puis des années après, il la retrouve. On ne peut pas parler d'admiration en tant que telle.
L'amour-vanité, peut-être
L'amour, même pas. L'admiration, non. Le désir, oui, bien sûr, mais il n'est pas premier. Et donc, il y a amour sans qu'on passe par l'admiration et par le désir. Alors, je ne voudrais pas faire de théorie, hein, d'autres l'ont fait bien mieux que moi, mais dans sa tour, au bout du compte, il aime Clélia, bien entendu, mais il aime l'amour. C'est peut-être dans le processus...
Il s'aime lui, aimant l'amour ?
Non. Il aime profondément cette situation où il se retrouve près de la femme aimée. Il goûte cet amour paradoxal dans l'enfermement. Mais il est vrai que c'est cet amour qui est son énergie. Donc, il aime l'amour en aimant Clélia. Alors que lorsqu'il était dans ses aventures amoureuses, il reproduisait un schéma qui n'était pas le sien. Mais il n'aimait pas l'amour, il faisait ce qu'on lui avait dit, il était programmé. Alors que là, il s'invente quelque chose dans l'amour de l'amour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans l'extrait que nous avons entendu.
Est-ce qu'il y a du masochisme dans cette manière justement d'aimer l'amour et seulement l'amour ?
S'il y a une pulsion de mort qui est jointe à une pulsion de vie, chez Fabrice, oui, c'est le leitmotiv de sa vie. Et c'est d'ailleurs pour cela que son itinéraire, sa trajectoire, c'est de se connaître. Au bout du compte, il sait, à la fin, qui il est. En aimant Clélia, il se découvre. Et donc, dans cet itinéraire, oui, il reconnaît, je pense, cette part de volupté dans la douleur, de volupté dans la contrainte. On peut parler de masochisme, oui, d'une certaine manière.
En un mot, et pour annoncer la seconde partie de cette émission, vous dites que c'est aussi une œuvre placée sous le signe de Shakespeare, la Chartreuse de Parme. Pour quelle raison ?
Pour une raison toute simple. Shakespeare est adulé par Stendhal. C'est un grand lecteur de Shakespeare et on minimise peut-être un peu trop l'importance du théâtre shakespearien sur les grands auteurs du 19e siècle. Les romantiques y puisent leur inspiration. Donc c'est pour cela.
On posera la question à Frédéric Sayer juste après la chronique de Nathalie Frolov dans la compagnie des auteurs.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire au lycée Louis le Grand à Paris. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler aujourd'hui, en lien donc avec notre sujet du jour, de Jane Austen et en particulier de Raison et Sentiment, que l'on peut donc rapprocher, en tout cas c'est ce que vous allez nous expliquer, des œuvres au programme dont il est question aujourd'hui pour les classes prépa scientifiques.
Oui, il m'a semblé que pour essayer de réfléchir sur la complexité de l'amour, qui est à l'œuvre aussi bien dans le songe que dans la chartreuse, il m'a semblé effectivement très intéressant de me concentrer sur Jane Austen, qui propose des variations sur l'amour dans ses différents romans, au sein d'une société encore corsetée par des lois patriarcales. Dans ces 6 romans, au-delà de la ferveur que ces romans peuvent ont pu susciter depuis toujours, Austen nous dévoile une conception de l'amour assez ambivalente qui dépasse le simple suspense qu'attend chaque lecteur et surtout, je dirais même presque chaque lectrice, car il est étonnant de voir à quel point en France, Jane Austen est associée à un public féminin. Et donc, les lecteurs, en fait, sont fascinés par à chaque fois la structure des romans qui aboutissent nécessairement à un mariage ou plusieurs. Pour autant, en fait, cette fascination qui est exercée par ces romans dépasse souvent le cadre du roman d'amour. L'écrivaine nous montre des situations sociales aussi dont il était impossible de s'affranchir à l'époque et qui, dans leur cadre très étroit, permettent de conjuguer une sorte de déterminisme, ce qui est assez intéressant, et un difficile chemin individuel des héroïnes. Je pense à Fanny dans Mansfield Park, par exemple, mais aussi au destin tragique, toujours au second plan, de ces jeunes femmes abandonnées par des hommes qu'on pourrait qualifier de roués, comme dans Les Liaisons dangereuses. Et c'est très intéressant, il y a bien sûr une des sœurs d'Elisabeth dans Orgueil et préjugés, mais surtout ce personnage assez terrible de Willoughby dans Sense and Sensibility.
Alors, Sense and Sensibility qu'on a pu traduire en français par raison ou sentiment, ou de manière plus pascalienne, par le cœur et la raison, deux traductions qui sont bien différentes et qui montrent peut-être tout l'implicite du titre en anglais qu'il rend difficile à traduire, Nathalie.
Tout à fait, c'est un titre qui semble de manière pourtant claire résumer les deux attitudes des deux personnages féminins face à l'amour. D'un côté, il y aurait le choix de la raison, si on reprend ce terme français, ou plutôt, je dirais, plutôt une absence de choix de la part d'Elinor qui attendra patiemment que l'homme qu'elle aime depuis le début du roman, Edwards, soit enfin libéré de tous ces obstacles sociaux, financiers qui l'entravent. Donc là, ça a l'air assez clair, ce sense ainsi. Mais de l'autre côté, on aurait Marianne, tout en sensibilité, alors un sentiment complètement exacerbé, qui aime l'amour avant même d'avoir rencontré celui qu'elle va tout de même qualifier un petit peu de prince charmant, et celui parce qu'il la sauve en fait d'une mauvaise chute dans la campagne anglaise, ce qui nous rappelle peut-être la Marianne de Marivaux. Mais ces deux mots du titre ne peuvent finalement pas tellement être traduits, parce que finalement le sense relève aussi de la sensation. Et sensibility ne désigne pas nécessairement un sentimentalisme qui est espéré, qui est attendu par les lecteurs. C'est un vrai titre programmatique pour les lecteurs. On s'attend vraiment à jouer sur les deux aspects. Sensibility, en fait, au-delà de l'expression des sentiments, renvoie aussi, juste au tournant du 18e et du 19e siècle, donc au moment où Jane Austen écrit, au goût, à l'empathie, dans la lignée des empiristes comme Locke ou Hume, qui sont des références pour elle. Donc finalement, tout comme la chartreuse et puis le songe d'une été, le roman Sense and Sensibility en fait témoigne de variations amoureuses très subtiles, je dirais loin de la passion tragique de Tristan et Iseult ou de la liberté élégante de l'amant de Lady Chatterley. Elinor peut constituer une sorte de référence morale pour les lecteurs et les lectrices. Peut-être qu'on pourrait la rapprocher de Clélia, mais Marianne représente tous les risques liés à la passion qui peut mener à la mort. Et c'est très intéressant parce que ce roman, bien sûr, est un roman d'amour, comme tous les romans de Jane Austen, mais en fait, comme la pièce de Shakespeare et comme le roman de Stendhal, c'est aussi, je dirais, un métaroman. C'est-à-dire, c'est une réflexion, en fait, sur ce qu'est le roman, qui réfléchit sur toutes les possibilités du roman, en faisant traverser à Marianne tous les topoï de la passion amoureuse. Il y a l'excès, il y a l'enthousiasme, il y a la cristallisation immédiate, il y a le renversement tragique. Donc finalement, Jane Austen transforme son personnage en personnage romanesque à tous les sens du terme, ce qui permet au lecteur de réfléchir véritablement justement aux possibilités du roman. Donc je crois que les élèves scientifiques, qui sont en grande majorité masculins, gagneraient sans doute aussi à s'intéresser à cette autrice qui leur donnera des clés peut-être sur la subtilité amoureuse et aussi les jeux ironiques qui portent sur l'amour.
En fait. Voilà, quand ils auront terminé de travailler sur La Chartreuse et sur Shakespeare, ils pourront commencer à lire Jane Austen, Raison et Sentiment. Merci beaucoup Nathalie Frolov pour cette analyse. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier jour de notre semaine consacrée à l'amour dans la littérature. À l'occasion, je vous le donne en mille, de la Saint-Valentin, mais aussi parce que les élèves des prépas scientifiques ont cette année ce thème au concours avec Le Banquet de Platon, La Chartreuse de Parme de Stendhal et Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Shakespeare dont voici un extrait en introduction à notre seconde partie. Il s'agit du célèbre passage durant lequel Bottom est transformé en âne par le lutin Puck.
Il faut que j'aille chez le barbier, monsieur, car m'est avis que je suis merveilleusement poilu autour du visage, et je suis un âne si délicat que, pour peu qu'un poil me démange, il faut que je me gratte.
Voyons, veux-tu entendre de la musique, mon doux amour ?
J'ai l'oreille passablement bonne en musique. Qu'on nous donne la clé et les pincettes.
Dis-moi, doux amour, ce que tu désires manger.
Ma foi, un picotin. Je marcherai bien de votre bonne avoine bien sèche. Mais t'as vu que j'aurais grande envie d'une botte de foin, du bon foin, du foin qui embaume. Rien n'est égal à ça.
J'ai une fée aventureuse qui ira fouiller le magasin d'un écureuil et t'apportera des noix nouvelles.
J'aimerais mieux une poignée ou deux de pois secs. Mais je vous en prie, empêchez vos gens de me déranger. Je sens venir à moi un accès de sommeil.
Dors, et je vais t'enlacer de mes bras. Partez, fée, et explorez tous les chemins. Ainsi le chèvrefeuille embaumé s'enlace doucement. Ainsi le lierre femelle s'enroule aux doigts d'écorce de l'orme. Oh, comme je t'aime, comme je raffole de toi.
Une lecture par Eric Ruff et Florence Viala. Comme je t'aime, comme je raffole de toi, dit la reine Titania à Bottom, changée en âne. Mais ce n'est pas tant que la reine soit habituellement tellement amoureuse des ânes, c'est plutôt qu'elle est sous le charme de la pensée d'amour. Cette fleur dont le suc, s'il est répandu sur des yeux endormis, fait que l'on tombe instantanément amoureux ou amoureuse de la première personne vue au réveil, que ce soit un âne ou pas. Alors c'est une scène essentiellement comique, Frédéric. Il faut dire que l'amour dans Le Songe d'une nuit d'été, c'est bien souvent un thème qui est pris par Shakespeare sur l'angle de l'aspect le plus comique.
Alors oui, évidemment, il y a un sens à donner au choix d'une comédie. Pourquoi le jury n'a pas choisi Roméo et Juliette, n'a pas choisi cette temporalité tragique qui est figée, hein, The Star-Crossed Lovers. Le temps ne peut pas être autre que celui qui mène vers la mort. Hein, et Juliette sera mariée à la mort. Et bien justement, hein, nous avons le contrepoint, l'antithèse ici. Hein, on ne sait pas si Shakespeare l'a écrit à quatre mains, mais Le Songe d'une nuit d'été qui vise à exorciser la pulsion de mort. Et là, ça, c'est on est au cœur, hein, de cette nature secrète qui est une nature enveloppante. Il y a aussi le chant d'amour de la terre et apparaît ce monstre comique, hein, ce minotaure un peu ridicule, ce centaure un peu grotesque, qui est Bottom, hein, transformé par Puck. Et il y aurait beaucoup à dire parce que dans le labyrinthe, le monstre à la Renaissance, hein, il y a une valeur positive, hein, ce qui est selon une étymologie fautive la monstration et cette création. moment-là, finalement, elle est celle qui donne du sens à toute la pièce.
Alors, donc, on peut peut-être
beaucoup à dire dessus.
Oui, on peut peut-être revenir quand même sur ce rapport avec Roméo et Juliette, parce que on disait en début d'émission que l'évidence aurait voulu que ce soit peut-être Roméo et Juliette qui soient finalement au programme. Mmh. Vous expliquez, Frédéric Sayer, qu'au fond, ces pièces, elles ont été écrites peut-être l'une en miroir de l'autre.
Voilà, alors les anglicistes ne sont pas d'accord, hein, on ne sait pas qui précède quoi, hein, si c'est Roméo et Juliette qui précède le songe.
Roméo et Juliette, c'est 1597.
Ouais. Oui, alors je crois qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hein, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux pièces se citent elles l'une l'autre. Et puis il y a Pierre et Métis B, qui est de l'origine hein, mythique, ovidienne, de la tragédie du double suicide des amants. Mm. Hein, beaucoup plus ancien que les amants de Vérone. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai une théorie, hein, qui est celle de Gisèle Venet, qui est une grande shakespearienne.
Qu'on connaît ici à France Culture.
Oui, bah, oui qui continue à faire des conférences à 82 ans, dans toute la France, hein, avec une énergie... assez incroyable. Et elle pense que les petites fleurs d'Occident, parce que là, la traduction de Jean-Michel Desprats est peut-être un peu plus précise, hein, les petites fleurs d'Occident, finalement, c'est une manière de tourner en dérision ce grand mythe de l'amour en Occident. Finalement, Tristan et Iseut, hein, là où il y a une fatalité tragique, il y a un artifice de comédie, un filtre qui est manipulé de manière comique hein, par Puck, qui se trompe de costume, c'est-à-dire d'identité théâtrale, où la contingence, finalement, a beaucoup plus de place que contingence de comédie, quiproquo de comédie, que la nécessité tragique. Donc il y a aussi une manière de faire un sort hein, à cet amour en Occident, avec toute la dérision qu'on connaît à Shakespeare, qui agit ici en maniériste, ironique. Hein, et même dans l'extrait qu'on a entendu, il y a plusieurs références voilées, hein, qui sont manipulées avec grand art par Shakespeare. Hein, je ne sais pas si j'ai le temps.
Si, allez-y, bien sûr.
Ah bah, il y a évidemment hein, cette référence biblique, hein, le chèvrefeuille qui enserre l'arbre, qui est tout à fait à contre-emploi ici, puisqu'il s'agit normalement dans la Bible de chanter la fidélité de l'épouse, hein, qui telle la vigne entoure l'or, mais là, il s'agit en fait d'un adultère mis en scène par un mari pervers, Oberon, le roi des ombres, hein, qui prend plaisir à cette scène de cocuage.
Mmh. Donc, on peut, ou c'est très difficile, trop difficile, de résumer à très grands traits l'intrigue, ou au moins les personnages principaux du Songe d'une nuit d'été.
Oui, la quadruple intrigue. Il y a plusieurs scènes. Hein, d'ailleurs, les mises en scène font état hein, de cette superposition des scènes. Il y a celle de célèbre de Peter Brook en 1970, où il y a des trapèzes, carrément, des trapèzes au-dessus hein, des comédiens, qui permet de juxtaposer. Hein, parce que souvent, le théâtre shakespearien, du moins ici, avance de manière proxémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les scènes. Et Oberon et Puck, qui sont souvent des témoins, hein, des mortels, de ce que font les mortels. Ils sont invisibles, hein, comme le veulent les créatures immortelles, comme le sont les créatures immortelles. Eh bien, ils sont sur ces trapèzes, ou inversement, il va y avoir des dormeurs qui sont sur des trapèzes au moment où Titania et Bottom, transformés en âne, se livrent à leurs ébats. Et du coup, qui fantasmeraient dans le songe hein, cette scène-là, hein, une sorte de songe dans le songe, procédé assez baroque, assez connu, si ce n'est que chez Shakespeare, ça va plus loin, ça va jusqu'à brouiller toute possibilité de distinction entre rêve et réalité.
Alors c'est justement l'un des sujets de cette pièce, le brouillage entre le rêve et la réalité, et aussi l'espèce d'entropie partout présente dans la pièce, avec les comédiens, par exemple, qui jouent une pièce le jour du mariage du roi et de sa femme dont le nom m'échappe.
Oui, Hippolyta, la reine des Amazones.
Voilà, la reine des Amazones, comment l'oublier. Donc il y a cette idée que finalement l'amour c'est très anthropique. C'est une analyse que je fais devant vous. Et que finalement c'est comme ça qu'il faut la montrer, Frédéric Sayer. Et que peut-être que justement c'est la comédie qui montre le mieux l'espèce de foutoir.
Oui, tout à fait. Hein, le cœur de l'intrigue, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues mélangées, hein, mais dont tous les motifs se rassemblent à la fin, tout de même. Hein. Cette intrigue essentielle, c'est finalement de bouleverser le monde amoureux tel qu'il existe. Il y aurait finalement aussi à parler du cosmos, parce que l'harmonie cosmique, hein, c'est finalement le système de référence plutôt Ptolémaïque, excusez-moi, hein, c'est très important pour les scientifiques, j'imagine, ce référentiel où la Terre est au centre et autour, hein, les astres sont immobiles. Et l'amour, finalement, l'amour aussi du duc et d'Hippolyta, est censé incarner cette stabilité intemporelle, hein, de l'amour. Et bien évidemment, Shakespeare va s'appliquer à tout bouleverser. Il va bouleverser et la littérature amoureuse, se moquant du pétrarchie, se moquant aussi, en tournant en dérision le mythe de l'amour fatal, cet amour en Occident, mais il va aussi bouleverser le monde tel qu'il existe, hein, puisqu'il y a des tempêtes, suite aux disputes de la reine des fées et du roi des ombres. Et enfin, il y a ce monde à l'envers aussi, lorsque les femmes poursuivent les hommes dans la forêt, dans ce monde vert, hein, où les rites païens dominent. Donc tout cela est complètement bouleversé lors d'une nuit, hein, où les certitudes se transforment en fantasmes, où les positions s'inversent. Hein, il y a aussi toute cette esthétique carnavalesque très importante, hein, décrite par Michael Bakhtin, à l'œuvre ici, donc une littérature plus populaire, moyenâgeuse, qui s'invite, hein, dans le costume de folle de Puck en Arlequin, hein, qui est lui-même à moitié solaire, à moitié. Donc si vous voulez, il y a quelque chose de vraiment passionnant à voir, qu'il y a une épistémée cosmique à cette époque-là, qui est en train d'être remise en cause, qui a des liens avec l'amour, hein, organisation des astres,
par exemple la Lune. Est très importante, elle symbolise l'inconstance amoureuse.
Alors la Lune, c'est justement le monde sublunaire, hein, parce que les repères ptolémaïques sont ceux d'Aristote, en fait. Hein. C'est le monde sublunaire, de l'impermanence. Hein. La Lune transforme justement toutes les apparences. Elle a des fonctions très variées. Parfois, elle éteint le désir. Hein, la lumière de la Lune éteint le désir. D'ailleurs, Titania protège son merveilleuse âne des rayons de la Lune pour peut-être que son ardeur ne faiblisse pas, oui. Hein, avec des ailes de papillon.
Mais alors, si on devait garder une idée, parce que, évidemment, vous arrivez à mettre dans une seule phrase beaucoup de niveaux de lecture. Pour les étudiants, s'ils devaient garder une idée un petit peu de ce que vous venez de dire, par exemple, sur le monde cosmique, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
C'est illustré, alors en plus la psychanalyse est d'accord avec ça pour une fois, c'est illustré par le mythe composite de l'origine des petites fleurs de Cupidon. Hein, il y a Oberon qui lui n'est pas dans l'ivresse, hein, qui contemple et qui voit, hein, qui est un initié, hein, comme dans la Chartreuse, il y a un initié, hein, dans l'œuvre de Shakespeare, le songe, c'est Oberon, le roi des ombres, et il voit, hein, distinctement ces sirènes sur le dos des dauphins. C'est une esthétique à la grotesque. Il y a des personnages chimériques un peu mélangés, dont le chant monte vers le ciel et ne descend pas, hein, vers l'abîme, entraînant la mort des marins. Il monte vers le ciel et il produit ce somptueux désastre. Hein, ce somptueux désastre qui est donc une étoile qui sort de son orbite et qui finalement fonde aussi le désir, hein, desiderare, hein, c'est regretter l'absence d'un astre, opposé à considerare, hein, où on constate la présence d'un astre. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a cet originel désastre, hein, qui va mettre en branle tout ce mouvement. Hein, si le monde est à l'envers dans la forêt, si toutes les identités s'inversent, si la littérature elle-même est moquée, une tradition littéraire très ancienne, hein, même.
C'est très peu rassurant ce que vous nous dites sur l'amour, finalement.
C'est très peu rassurant, mais c'est comme ça que le désir peut aussi mettre en mouvement.
Je ne t'aime pas, donc ne me poursuis pas. Hors d'ici, va-t'en et cesse de me suivre.
C'est vous qui m'attirez, vous, dur cœur dément. Mais ce n'est pas du fer que vous attirez, car mon cœur est pur, comme l'acier. Perdez la force d'attirer et je n'aurai pas la force de vous suivre.
Est-ce que je vous entraîne ? Est-ce que je vous encourage? Est-ce qu'au contraire, je ne vous dis pas, avec la plus entière franchise, je ne vous aime pas et je ne puis pas vous aimer?
Et je ne vous en aime que davantage. Je suis votre épagneul, Démétrius, et plus vous me battez, plus je vous cajole. Traitez-moi comme votre épagneul, repoussez-moi, frappez-moi, délaissez-moi, perdez-moi, seulement accordez-moi la permission de vous suivre, tout indigne que je suis. Quelle place plus humble dans votre amour puis-je mendier, quand je vous demande de me traiter comme votre chien? Eh bien, c'est cependant pour moi une place hautement désirable.
N'excite pas trop mon aversion, car je souffre quand je te regarde.
Et moi aussi, je souffre quand je vous regarde.
Nouvel extrait du songe d'une nuit d'été par les sociétaires de la Comédie Française. Qu'en retenez-vous, Frédéric Sayer?
Alors, il est connu, hein, cet extrait, c'est tout simplement l'asservissement amoureux d'Elena, qui a presque un rôle de tragédienne au début. Malheureusement, les metteurs en scène ne s'appesantissent pas trop dessus. Hein, la vis comica est beaucoup plus forte dans cette pièce. Néanmoins, elle est à la traîne de la chaîne des quatre amants, puisque Lysandre et Hermia partent dans la forêt pour fuir la loi patriarcale. La patria potestas terrible qui peut aller jusqu'à la mort. On est quand même censé être dans l'Antiquité, même s'il y a des personnages celtiques. Hein, enfin bon, on n'est pas à une ambiguïté près avec...
Toute la pièce est faite de folie, donc c'est pas tellement gênant finalement.
Oui, le désir est considéré comme une folie, enfin l'amour comme une folie, ou alors comme la poésie, qui est une forme de folie lucide. L'influence d'Erasme est importante, qui a été traduit à Londres à la même époque. Alors pour revenir à cet extrait, l'épagneul, évidemment, c'est le chien qui suit fidèlement son maître. Cependant, entrer dans le monde vert, dans ce monde, dans cette forêt toujours un peu utopique chez Shakespeare, on pense à la forêt d'Ardennes également, dans As You Like It. Dans cette forêt, les rôles s'inversent. Il y a certes que ce monde à l'envers ne concerne pas simplement le désordre cosmique provoqué par la dispute du roi des ombres et de la reine des fées, mais c'est aussi l'occasion pour les femmes, enfin, de poursuivre les hommes. Elle devient une sorte de Daphné qui poursuit Apollon, ou alors une colombe qui poursuit un griffon dans le bestiaire médiéval, et enfin un chasseur qui poursuit un chevreuil.
Est-ce que vous diriez, du coup, que c'est une comédie érotique? On se poursuit, là, dans l'extrait qu'on entendait, c'était « Je te suis, tu me fuis » et son inverse. Il y a une exaltation de la nature, vous l'avez bien expliqué. Il y a Thésée qui est impatient d'arriver à sa nuit de noces. Lysandre qui essaie d'avoir une relation charnelle avec Hermia. Enfin, c'est vraiment l'élan vital qu'on ressent partout chez Shakespeare dans cette pièce-là.
Voilà, il y a les pulsions de vie qui sont présentes partout et tout le monde attend la nuit de noces avec beaucoup d'impatience, sauf Hippolyta, un peu plus réservée, puisqu'elle a été conquise par la guerre, même si The Spirit of Mirth est un programme pour la pièce, cet esprit de gaieté qui inscrit la pièce dans un genre qui est l'épithalame, la célébration du mariage, qui peut aussi en passer par la nostalgie de la virginité perdue. Donc il y a aussi tout ce champ sémantique de la défloration qui est positif.
Du viol même.
Alors le viol, il est déplacé. Évidemment, à un moment, Démétrius s'impatiente et lui dit, dans l'extrait que vous avez passé un peu avant, qu'il pourrait lui faire outrage, c'est-à-dire la violer. Effectivement, il y a ce spectre du viol ici ou là, mais par rapport à la violence qui règne en cette fin de 16e siècle, c'est assez, relativement atténué. Je pense que ce qui est plus important, c'est de voir comment le sang du double suicide des amants Pyrame et Thisbé, le sang de Thisbé qui colore les fleurs de Murier, va être déplacé ici pour colorer les petites fleurs d'Occident. Qui se purple from love's wound, qui se colore finalement du sang de la défloration, qui reste positif, qui reste un sang de vie par rapport au sang de mort. Et là, on a le mythe ovidien qui a vraiment été déplacé de manière intentionnelle par Shakespeare. C'est appuyé. Parfois, il faut même faire intervenir, notamment pour Titania, la fleur inverse, contraire au pouvoir contraire, l'artémisia, l'armoise, la fleur de Diane, oui, le bourgeon de Diane, pour rétablir et restaurer ce qui aurait été perdu.
Alors, pour faire le lien avec Stendhal, en première partie de cette émission, rappeler, comme Emmanuel Caquet avait commencé de le faire, que les romantiques ont beaucoup joué dans l'interprétation de Shakespeare. C'est d'ailleurs Victor Hugo qui a consacré un ouvrage à Shakespeare où il le compare à Dante. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en quelques secondes, Frédéric Sayer, de cette réception par les romantiques, de ce filtre par le 19e siècle?
Non, mais c'est une heureuse réception. Le 17e siècle français, c'est tout crispé sur l'aristotélisme, alors que Shakespeare est une pensée mobile qu'on a beaucoup ignorée. C'était un objet, un ovni pour les Français. Heureusement, les romantiques sont arrivés pour faire une lecture parfois erronée de Shakespeare. L'unanimisme du théâtre du Globe, évidemment, n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où un prince et un gueux se fréquentent au théâtre du Globe, mais ne se touchent pas, hein, si ce n'est peut-être pour dérober les bijoux du prince. Et d'ailleurs, il y a des plaisanteries qui sont destinées, les plus graveleuses, qui sont destinées à la frange la plus populaire du théâtre du Globe. Dans l'extrait que vous avez cité, il y a un petit elfe dont le père est mentionné, un Mr. Peace Code, et Code of Peace, c'est la braguette. Mm-hmm. Et puis on peut aller plus loin, un piece of code, c'est le morceau de morue, c'est ce que devient le sexe masculin après la syphilis. Donc vous voyez, c'est un poète qui a une verve, il ne faut pas être trop effrayé quand on est son traducteur, et bottom, effectivement, ça doit se traduire par bottom.
Oui, enfin en même temps, quand on parle des orgies du mois de mai, comme le fait aussi Shakespeare dans Le Songe d'une nuit d'été, on ne peut pas le faire différemment de ça. Merci Frédéric Sayer. Et je rappelle que vous avez publié avec Emmanuel Caquet, qu'on a entendu en première partie de cette émission, ainsi qu'avec Muriel Van Vlier, un ouvrage destiné à aider les élèves de classe préparatoire scientifique et leurs professeurs aussi pour les concours 2018-2019. Il s'intitule tout simplement « L'amour » et il est paru aux Presses universitaires de France. C'était la Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazulier et Audrey Guélil. Demain, vous avez rendez-vous avec Manu Farine pour la Compagnie des poètes. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un hommage à Amos Oz, l'écrivain israélien disparu le 28 décembre dernier à Tel Aviv, au premier jour donc d'une semaine qui lui sera entièrement consacrée. Mais pour l'heure, c'est le retour de la poésie et c'est évidemment avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. On ne pouvait pas quitter Volker Braun sans entonner l'international, son international à la page 72, la version particulière qu'il en donne. Et, citons-le, la littérature est constructive parce qu'elle met en relief des contradictions et non les idéaux. Elle est pleine de déchirures. Vous, les damnés de la terre dans la bouillasse, le brouillard, vous les phoques trahis, toi le buisson maltraité, humide prairie rabaissée, surchargée, vous les chênes gris au fait de tout, et vous les prés avec vos intérêts de sauvage, l'antique savoir des minerais qui s'était allié aux strates sans nombre, les îles, heureux arguments, et la mer enragée qui se lave, tout cet élément incertain qui bascule, comme cyniquement nous disons. Quelle adhésion de paysage décidé, et vous, jeune fleuve déjà corrompu, quel nouveau groupe parlementaire vous faites qui va animer les débats? Les couchers de soleil sans sourciller montent au ciel avec leurs affiches, l'air rempli de suppliante joie, nos poumons. Vous, mes compagnons de lutte, ces déserts en marche, comme ils changent nos fiers projets avec leur stratégie du désespoir et nous encouragent de leur trombe d'eau. Et l'homme englouti, ému de voir les raisonnables baleines, se soulève, rejoignant ses semblables les minuscules racines. Et notre ligue, pourrie de part en part, si longtemps avilie par la solitude sur terre, ressent le désir élémentaire. Il nous reste quelques secondes pour évoquer la complicité de Volker Braun avec le théâtre, avec la mémoire de Shakespeare, celle de Brecht, on en a parlé, avec Avignon. Ivre, je marchais sur cet ancien pont. On y danse, paraît-il, on y danse, ne doutant pas qu'il me mènerait vers l'autre rive. 100 mètres plus loin, j'ai marché dans le vide qui pendait derrière la quatrième pile au milieu du fleuve. L'eau me parut bonne, réchauffée par les goûts, nauséabonde, mais scintillante sur le lit de galets blanc et plat où des bras de cèdre et de laurier rose m'accueillirent. Les êtres de ce lieu avaient pris place à des tables chargées de crabes, coquillages, fromages et vins rouges. À peine mon pied avait-il touché le fond que l'on m'embrassait sur les joues droites et gauches. Étrange coutume, ils dévoraient avec minutie les gestes aussi légers que les phrases. D'autres, accroupis, battaient avec leurs cannes la mesure de la Marseillaise. Saints et nombrils se glissaient hors des robes à m'en faire venir l'eau sous les os à la bouche. J'oubliais presque où je me trouvais. Les anciens Grecs y situaient l'entrée dans le monde des morts. Alors que j'ai pu voir ces gens, sous le niveau de la mer, vivre comme Dieu en France. Rassasié, abreuvé, chantant, je fus d'emblée converti. Ne croire en rien d'autre qu'à ce que mes lèvres attrapaient. Olive, regard, phrase nue, sans aucune parure, comme il est d'usage dans l'eau.
Et merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes de Volker Braun.